Il y a un peu plus de 300 ans, naissait le bagel. Mais qui se serait un jour imaginé qu'un trou dans un pain rond rencontrerait un tel succès ? Ce n'est en tout cas pas pour déplaire à Thierry Veil, le CEO de la chaîne Bagelstein depuis 2010, avec aujourd'hui 87 restaurants à son actif. Chez Bagelstein, tout est fait maison et avec le cœur, par de vrais boulangers. Pas question de surgeler, oui, mais surtout, Bagelstein, c'est une marque qui a su se réinventer après quelques années difficiles et renouer avec la croissance. Thierry Veil se confie sur la réorientation de son business, sur son concept à l'image décalée, sur ce que son bagage financier lui a apporté à ce jour, dans ce tout nouvel épisode de Once Upon a Business. Bienvenue sur Once Upon a Business, le podcast qui explore les stratégies business et les retours d'expérience des experts financiers. Je m'appelle Loury et j'anime cet épisode pour Once Upon a Business, un podcast créé par Emasphère, plateforme SaaS de reporting pour les financiers. Avec ce podcast, nous vous proposons un condensé des parcours de femmes et d'hommes qui osent, apprentissage, conseils et même morale de leur histoire. Si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez tout. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Alors, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans cet épisode. Pour apprendre un peu plus à te connaître, je vais commencer par te demander de te présenter à nos auditeurs. Et donc, peux-tu nous parler un peu de toi et de ton parcours professionnel ?
C'est un parcours qui repose sur la réalisation de ses rêves. C'est-à-dire que je me suis fixé, et j'essaye d'apprendre ça à mes enfants, qu'on a une seule obligation sur cette planète, c'est de réaliser ses rêves. La difficulté, c'est parfois de les définir, mais quand on les a trouvés, c'est de les réaliser. Mon premier rêve, il est absolument pas glamour, il est absolument pas sexy, c'était de faire de l'audit financier. Je trouvais ça passionnant d'aller chaque semaine dans une autre entreprise, d'apprendre comment ça marche, d'apprendre les rouages à travers le prisme financier. Et j'ai fait ça pendant 10 ans dans le monde entier, avec un cabinet anglo-saxon. J'ai adoré, jusqu'au moment où j'ai estimé qu'il était temps de changer de rêve. Et j'ai réalisé un deuxième rêve qui était de travailler dans le foot, où j'ai été directeur administratif et financier, puis directeur général de mon club de prédilection. C'était un truc de dingue. Je travaillais avec les gens que j'avais en poster dans ma chambre, gamin. Et ensuite, ça a été l'entrepreneuriat. Je voulais réaliser quelque chose. Je l'ai fait en deux étapes. La première, où j'ai racheté des parts d'une entreprise que je n'avais pas créée. C'était dans la vente directe aux particuliers. Et puis ensuite, j'ai créé un premier concept de restauration autour du sushi avec un associé. Et avec ce même associé, on a voulu aller plus loin pour des raisons liées à la rentabilité, au contrôle interne. On a arrêté le sushi et on a créé un concept Bagelstein qui existe depuis effectivement 11 ans aujourd'hui.
C'est super intéressant. Alors, comme on le comprend bien, tu incarnes une fonction très importante aujourd'hui avec de nombreuses responsabilités. En off, tu nous as parlé de tes exutoires et j'aimerais bien que tu en parles un peu ici à nos auditeurs.
Ça touche la vie privée, mais avec plaisir. J'ai deux exutoires, parce que je ne vais pas qualifier ma vie familiale d'exutoire, ce serait insultant pour eux. Je cours. Ça a été... Je pesais à un moment donné plus de 120 kilos et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Je me suis mis à courir un peu à la Forrest Gump. Je m'arrêtais, moi, contrairement à lui, et j'ai couru 18 marathons et ça a été un vrai exutoire, plutôt vertueux, plutôt sain. Alors, j'étais une lamentable serpillière, mais je les courais et je les finissais. C'est un de mes exutoires. L'autre, c'est de faire de la musique. Je fais beaucoup de musique, je joue beaucoup de guitare, je joue dans un groupe, je fais des concerts. Et c'est mes deux principaux exutoires.
Eh ben purée, c'est super impressionnant. J'aimerais maintenant que tu me parles un petit peu plus de Bagelstein, donc en termes de secteur d'activité, de chiffres.
Alors, Bagelstein, c'est une chaîne créée autour du bagel, mais pas que. On a créé ce concept autour, mon associé et moi, autour de deux piliers. Un état d'esprit très particulier, très borderline, très provocant. Et deux, des produits qui doivent être bons, ne serait-ce que pour soutenir l'humour qu'il y a dans l'état d'esprit du premier pilier. Donc, on fabrique tout nous-mêmes et on fabrique tout à partir d'ingrédients nobles. Et on livre tous les jours. Alors, tu disais 87 boutiques, mais en ce moment, on en ouvre beaucoup. Donc là, on est à 92. Il s'est passé pas mal de choses depuis... Et donc, on a cette marque qui est notre bébé et qu'on développe à travers un système de franchise. À un moment donné, on a arrêté la franchise pour reprendre des succursales. Au départ, on a créé nos boutiques, nos succursales, mais très vite, devant le succès, on s'est déployé en franchise. À un moment donné, en 2018, on est revenu à succursale et on n'aurait pas dû. Ça a été une grave erreur stratégique qu'on a réussi à rectifier. Et on se déploie aujourd'hui dans toute l'Europe. En France, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. Et puis, on commence à avoir des touches en dehors de l'Europe. Donc, c'est un concept qui plaît, qui repose sur ces deux piliers et qui s'étend à travers d'autres gammes de produits. On a des soupes qui cartonnent en hiver, on a des salades en été, on a des gammes de smoothies, de pâtisseries. Et aujourd'hui, les bagels représentent un peu plus de 55% du chiffre d'affaires. Mais ça veut dire qu'il y a 45% qui est fait hors de cet univers-là. Et c'est forcément un levier de croissance très important pour nous.
Effectivement. Une question qu'on se pose tout de même, c'est comment tu es devenu CEO de Bagelstein? Quel est ton parcours? En off, tu nous as expliqué que tu avais réalisé un de tes rêves, mais que tu t'étais rendu compte en fait que c'était un simple rêve et qu'il valait mieux peut-être ne pas le réaliser. Est-ce que tu peux nous parler de cette petite histoire?
Alors déjà, le passage de CFO à CEO, il y a eu le passage pour devenir CFO aussi. J'ai fait une école de commerce et je suis expert comptable. Donc, j'ai eu un parcours extrêmement comptable et financier. Mais paradoxalement, j'ai jamais voulu ouvrir mon cabinet expert comptable. C'est-à-dire que je voyais ça comme assez réducteur de faire des déclarations de TVA et des déclarations d'impôts et tenir de la comptabilité. Pour moi, c'était pas une finalité. La finalité, c'est de diriger une entreprise et c'est un moyen, c'est pas une finalité. Donc, j'ai quand même eu un parcours très financier et j'ai travaillé, comme je vous l'ai dit, parce que c'était un de mes rêves dans l'audit financier chez Pricewaterhouse. Et ça a été un déclic parce que j'ai appris plein de secteurs d'activité, c'était extraordinaire comme école. La difficulté de ce genre de cabinet, c'est d'en sortir parce que c'est à la fois exaltant et confortable. Et j'ai pu quitter ce monde-là pour devenir directeur administratif et financier du club de foot qui était mon deuxième rêve. Et c'est comme ça que j'ai accédé à cette direction qui a été très différente. Moi, quand on est dans l'audit, on fait rien, on contrôle les autres, on valide, on invalide, on analyse, mais on construit pas. Et là, j'étais aux manettes d'un club de foot, en plus mon club de foot. C'était déjà un premier changement de vie. Et sauf que le foot, c'est là où je te disais en off, il y a des rêves qui doivent mieux rester rêves. C'est-à-dire que c'est un univers pour lequel j'étais pas formaté. Moi, je viens de l'orthodoxie comptable et financière, j'ai des valeurs. Et le foot, c'est un milieu où il y a beaucoup trop d'argent et pas assez de neurones. Et mes valeurs n'étaient pas toujours compatibles avec ce milieu-là. Et à un moment donné, je me demandais même qu'est-ce que je dois apprendre à mes enfants? Est-ce que c'est moi qui ai raison ou est-ce que c'est ce monde-là qui est vide, qui est superficiel, mais qui est partout et qui promeut une image? Est-ce que c'est ce monde-là qui a la vérité? C'est assez compliqué. Et j'ai fait un choix et depuis, j'arrive même plus à regarder les matchs de foot. C'est-à-dire que même la Coupe du Monde actuellement, je la survole.
Alors forcément, donc comme Once Upon a Business est donc un podcast destiné au directeur financier, je vais maintenant te demander en quoi ton bagage d'expert comptable et ton expérience de CFO t'a apporté une aide précieuse dans ton quotidien de CEO aujourd'hui et ces 10 dernières années.
Ça a été totalement indispensable et c'était là aussi, je parle beaucoup de piliers, mais un pilier sur lequel je me suis reposé parce que on a créé cette aventure avec 1000 euros de capital, donc rien, et qu'il a fallu piloter une croissance très rapide avec des besoins en fonds de roulement très importants et que ça a été compliqué. Et le fait d'avoir ce bagage-là, de pouvoir faire des projections, budgéter, parler un langage connu à un banquier, faire des levées de fonds, driver des due diligence. On a fait 2 levées de fonds chez Bagelstein. Ça a été forcément très important. Aujourd'hui, j'ai un directeur administratif et financier que je drive. J'ai un actionnaire qui me demande un reporting régulier. Au début, ça a été vécu comme une contrainte, mais très vite, ça a été vécu comme un apport et ça me permet de piloter l'entreprise beaucoup mieux. Tous les jours, je bénis ma formation comptable et financière parce que, encore une fois, je la vis pas comme une finalité. Pour moi, c'est un moyen et c'est un outil, mais c'est un outil formidable qui me permet de piloter. Là encore, ce matin, on a pris des changements stratégiques par rapport à nos prévisions de trésorerie de l'année prochaine et je ne subis pas. Ça me permet d'anticiper, de prévoir et de travailler en amont et de justifier mes choix stratégiques vis-à-vis de mes équipes aussi.
Évidemment. Donc, je vais revenir en 2018 et 2019. Donc, Bagelstein a connu des années assez difficiles à ce moment-là et la crise du Covid n'a pas aidé. Bagelstein était réorienté en libre-service et avec succès. Peux-tu nous parler de ces moments plus compliqués pour ton entreprise? Il y a eu plusieurs succès, donc notamment l'augmentation du ticket moyen et de la fréquentation. Est-ce que tu penses que ton appétence pour les chiffres t'a aidé à réorienter ton business modèle ou est-ce que c'est tout autre chose?
Non. Ça a été très important. Et les années 2018 et 2019, tu l'as souligné, ont été difficiles parce qu'on a changé notre stratégie. Toute notre croissance a été faite sur la franchise. Et en 2018, on fait une levée de fonds, on a du cash et on décide de changer notre stratégie en arrêtant la franchise et en repartant sur les succursales. Et on est passé en un an de 3 à 22 restaurants, de 50 à 350 salariés. Et en fait, on a consommé notre cash sans être rentable, ce qui fait qu'on a cramé notre cash pour cramer du cash. Et ça a été très compliqué de se remettre de ça. Mais là encore, mon background m'a permis de pouvoir négocier avec les banques, négocier avec notre actionnaire. Et ça a été, c'est quand les moments sont le plus difficiles et le plus tendus que le pilotage doit être le plus fin et le plus délicat possible. Le fait d'avoir ce cursus-là nous a beaucoup aidé, assurément. Après, il y a la manière de se réinventer et une fois qu'on a corrigé le tir, de repartir avec un changement stratégique. Et c'est là où, avec Gilles, mon associé, on va au-delà du simple aspect financier. C'est comment est-ce qu'on repart? Qu'est-ce qu'on change? Quels sont les curseurs? Parfois, quels sont les facteurs clés de succès qui ont drivé notre succès, mais qu'on arrête pour partir sur autre chose? Donc, avec une notion de risque qui est très lourde. Et tu as souligné le libre service. Et en fait, c'est né d'un appel d'offres dans une gare à Paris où on peut pas attendre que le client qui va prendre son train commande un bagel au poulet et qu'on lui fasse toaster le pain, qu'on le garnisse. Et c'est là où la libre-service est entrée dans la danse. Mais le libre-service chez nous, c'est compliqué parce qu'on s'est construit sur « on le fait sous vos yeux ». Donc, l'articulation des deux a été importante. On a aussi bien écouté nos clients. Là, on est plus sur du marketing et de la com qui nous réclamaient des frites. Sauf que nous, on n'a pas d'extraction dans nos boutiques, donc on n'a pas de possibilité de mettre des friteuses ou de la cuisson. Et il a fallu travailler avec un fabricant de friteuses sans extraction. Et tous ces facteurs-là ont contribué à augmenter le panier moyen et à donner plus de satisfaction aux clients et à faire venir plus de monde. Donc je dirais, pour revenir à ta question, oui, il y a une phase où l'aspect financier et comptable a été très important pour le pilotage de la phase difficile. Mais après, ça a été une phase plus marketing, stratégique et créatrice qui nous a permis de prendre les bonnes décisions une fois qu'on en avait analysé les conséquences.
Tout à fait. Et le marketing est donc bien plus important que certains le pensent parfois.
Absolument.
Je voudrais maintenant revenir sur l'originalité du concept de Bagelstein qui, au-delà du fait main, fait maison, donc il y a déjà très, très bien pour le consommateur, donc allie un sens de l'humour décapant. Cet état d'esprit est assez à contre-courant de l'idée qu'on se fait du financier, qui est souvent introverti, parfois ennuyeux, certains le pensent. Est-ce que cette dichotomie était voulue et assumée?
Ah, totalement. Et j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que même en école de commerce, qui était très comptable financier, puisque j'avais suivi ces majeurs-là, j'étais un ovni. Et j'ai toujours cultivé cette différence. En fait, j'estimais que j'avais plutôt une appétence pour le marketing et la com, mais que c'était assez inné et que je préférais apprendre des techniques qui n'étaient pas acquises. Et c'est pour ça que je me suis orienté vers le marketing, vers la comptabilité et la finance, pardon. J'ai une vraie appétence pour le marketing et la communication. C'est aussi pour ça que j'ai jamais voulu ouvrir mon cabinet d'expertise comptable et que je me retrouve très bien dans ce domaine-là. Avec mon associé, on a une phrase qu'on aime bien, c'est « il n'y a que les poissons morts qui suivent le courant ». Et nous, on va à l'encontre de ça. C'est pas toujours facile à assimiler en termes de communication. Encore une fois, il n'y a pas de marque qui accepte que d'être détesté par des clients. C'est-à-dire que toutes les marques essayent de faire l'unanimité pour gagner un maximum de clients. Nous, on dit, peut-être vous ne nous aimez pas, c'est pas grave, il y en a beaucoup d'autres qui vont nous aimer. Et c'est un raccourci, mais ça nous a permis de fédérer, de créer un état d'esprit Bagelstein, parfois difficile, avec un humour qui est grinçant. Quand sur nos serviettes en papier, on met recyclé avec les livres de Marc Lévy, il faut l'assumer derrière. Quand à la Saint-Valentin, on n'offre pas des roses comme tous les restaurants du monde aux jeunes femmes, mais des préservatifs parce que ça leur sera plus utile, il faut l'assumer. Et il y a des gens qui vont être choqués, qui vont dire « mais jamais de ma vie, je ne mettrai un pied là-dedans ». Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui vont se dire « c'est génial, je suis la marque ». Donc, c'est un ton qui n'est pas facile à assumer. On a sur toutes nos vitrines marqué, peint à la main, « free wifi pour les filles », ce qui est complètement stupide. Mais on a eu des plaintes d'associations féministes qui nous disaient « mais c'est méprisant pour les femmes, je ne vois pas en quoi ». On l'a changé, on a mis « free wifi pour les petits ». Donc, on a eu des associations de nains qui sont venues se plaindre à nous. À un moment donné, c'est le ridicule engendre le ridicule. Et il faut pouvoir assumer tout ça. Mais c'est ça l'esprit Biegelstein.
C'est déjà le moment des traditionnelles questions de fin de Once Upon a Business. Je vais commencer par celle-ci. Qui considères-tu comme le mentor de ton histoire?
J'ai eu, quand j'étais chez Pricewaterhouse, donc dans l'audit financier ultra cadré, structuré, normé, processé, il y avait un associé qui m'a embauché et qui était totalement atypique. Il s'appelle Olivier Aucher et c'est quelqu'un qui m'a embauché alors que je n'avais pas fait une des trois grandes écoles, qui m'a fait confiance et qui m'a aidé à passer des paliers quand c'était difficile. Et j'ai eu des déclics grâce à lui. Et quand je l'ai remercié, il m'a dit « je te demande rien, je veux juste que tu fasses la même chose avec d'autres ». Et c'est un engagement que j'ai pris avec lui et je me fais une grande joie de transmettre ce que je peux transmettre ou de partager ce que je peux partager. Et c'est un mentor pour moi dans l'aspect atypique et dans l'aspect transmission.
Thierry, est-ce que tu as une potion magique ou une botte secrète dans ta vie au quotidien ?
Dans ma vie, j'ai deux choses qui sont fondamentales pour moi. J'ai ma femme et mes enfants, et j'ai la marque que j'ai créée avec Gilles. Je ne déteste personne suffisamment pour leur confier ma femme et mes enfants, mais je confie ma marque tous les jours à des nouveaux franchisés. Mais j'ai ma potion magique, c'est ma femme et mes enfants. Et l'entrepreneuriat au départ, ça a été extrêmement compliqué. Là, ça va, mais Biegelstein au départ, c'était un cauchemar. Et moi, j'avais la vision de ce que ça allait être. Mais ma femme et mes enfants, ils voyaient juste les huissiers qui venaient chez moi chercher la télé parce qu'on n'arrivait pas à payer les factures. Et il a fallu que j'ai une famille exceptionnelle avec un socle exceptionnel pour pouvoir, qui croyait en moi et moi qui croyais en ma vision et en la vision que j'avais de Biegelstein. Donc, ma potion magique, c'est ma famille.
Oui, tout est bien, qui finit bien. J'ai une dernière question pour toi. Quelle est la morale de ton histoire?
C'est une phrase qui n'est pas de moi. Mais qui me porte, c'est une phrase qui dit la vie, c'est pas attendre que l'orage s'arrête, c'est apprendre à danser sous la pluie. Et l'entrepreneuriat, c'est ça tous les jours. Et c'est formidable de pouvoir voir le verre à moitié plein aussi.
Eh bien, on clôture cet épisode sur une note inspirante. Merci infiniment, Thierry Veil, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé ce moment avec nos auditeurs. Au revoir et à bientôt, j'espère.
Merci à Emmasphère et merci à toi.
Once Upon a Business est une production Emmasphère, solution SaaS d'analyse et de prévision pour financiers. Pour nous aider à faire grandir le podcast et continuer d'inviter des profils inspirants, laissez une note 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute et suivez-nous sur LinkedIn pour ne rien manquer de nos contenus inédits.